VOA Afrique. Bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Washington Forum exclusivement consacré aux femmes. Dirigeantes, candidates à une élection présidentielle ou lauréates d'un prix Nobel, elles restent sous-représentées. Encore trop nombreuses sont celles qui sont victimes des pires violences, qu'elles soient au quotidien ou en période de guerre. À qui est défi ? On fera le point dans ce Washington Forum.
La situation des femmes aujourd'hui, depuis 1903 avec la création des suffragettes, au-delà de la Journée internationale des droits des femmes, c'est l'occasion de faire un bilan sur les acquis, les revendications et les tabous. Où en est-on de la parité, de l'accès aux soins et à l'éducation, ou encore de la prise en compte des violences faites aux femmes ? C'est tout de suite dans Washington Forum.
Washington Forum. Le Rwanda est le premier pays au monde à détenir une majorité de femmes au Parlement, avec plus de 60% à la Chambre des députés. Inspirées par cette parité, plusieurs jeunes filles et femmes osent briser certains tabous, allant jusqu'à pratiquer, par exemple, des activités habituellement réservées aux garçons. C'est un reportage de notre correspondant au Rwanda, Maurice Magorané.
Figure politique bien connue, Louise Mushikiwabo est une femme à un poste clé, qui avant tout a été reconnue pour ses compétences. Elle est désormais ministre des Affaires étrangères. Les femmes brisent les barrières et s'aventurent dans des métiers qui étaient pratiqués par des hommes. Maçon, taximen, entraîneur de foot, etc. Dans ce domaine, le Rwanda est vu comme étant un exemple pour le reste du monde.
Si nous partons de la représentativité des femmes au sein des instances de prise de décision politique, vous savez, le Rwanda, en fait, c'est le premier pays en termes d'avoir plus de femmes au sein du Parlement.
Depuis que les femmes sont dans des instances décisionnaires, elles ont aidé dans la mise en place des lois équitables pour tous. Mais pour la présidente de la Chambre des députés, il reste encore du chemin.
Je dirais que le bilan est positif maintenant. En matière de législation, en matière de contrôle de l'action gouvernementale en ce qui concerne le Parlement, le bilan est positif, surtout en matière politique. En matière économique, on a encore beaucoup à faire parce que l'on remarque que les femmes ont un grand pas à faire en matière économique, en matière financière, en matière d'investissement dans des grands projets.
En effet, les défis sont multiples dans le pays. L'extrême précarité des femmes, sans emploi, ayant en charge leur famille, les pousse à faire les moindres petits emplois. Nous en avons rencontré plusieurs dans le centre de Kigali. Beaucoup d'entre elles aimeraient avoir accès au microcrédit pour relancer leurs affaires.
Après m'être retrouvée dans une pauvreté totale, sans investissement ni endroit où travailler, je me suis dit que si je venais ici sur la route, je pourrais avoir même ces 1000 francs pour nourrir mes petits. Si j'avais un bon investissement, je ferais un tout autre commerce, j'aurais une boutique et vendrais beaucoup de variétés qui ne sont pas des habits. Nous, ce que nous voulons est qu'ils nous cherchent des investissements pour travailler, pour qu'on quitte la rue. Si nous avions cet argent, nous partirions, ou bien qu'on nous cherche un endroit meilleur pour travailler.
Pour le gouvernement rwandais, il est difficile de répertorier les femmes qui travaillent dans le secteur informel. Pourtant, cela leur permettrait de les intégrer dans le programme d'aide existant.
Alors dans ce débat, nous aurons le plaisir d'être en ligne depuis Cotonou avec Madame Rekia Madougou, experte internationale en finance inclusive et ancienne garde des Sceaux du Bénin. Et tout au long de cette émission, nous serons aussi en compagnie de Kamissa Camara. Vous êtes responsable des programmes Afrique de l'Ouest et Centrale à la Fondation Démocratie. À la Fondation Nationale pour la Démocratie. Vous êtes basée ici à Washington. Également Jennifer McClurley-Seals, chercheure au Centre de Recherche sur les Femmes à Washington. Chercheuse, d'ailleurs. On met tout ça au féminin. Si vous le voulez bien, remontons d'abord un petit peu le cours de l'histoire, l'histoire avec un grand H, celle du vote des femmes, de leur engagement en politique avec ces images des suffragettes ou les militantes de la Women's Social and Political Union, une organisation créée en 1903 pour revendiquer le droit de vote pour les femmes au Royaume-Uni. Ces modes d'action fondés sur la provocation rompirent avec la bienséance qui dominait jusqu'alors le mouvement suffragiste britannique. Leurs mouvements ont inspiré cette journée internationale du 8 mars, dont nous sommes toutes fières, je pense, aujourd'hui. Rekia Madougou, selon l'ONU Femmes, les femmes sont sous-représentées aussi bien au sein des assemblées élues que dans l'administration publique. Alors vous qui êtes parvenu à ces fonctions, que manque-t-il aujourd'hui pour qu'il y ait plus de femmes à ce genre de poste ?
Écoutez, j'aimerais bien commencer d'abord quand même par rappeler la corrélation directe qu'il y a entre l'éducation de la jeune fille et la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Vous savez, par exemple, sur le continent africain, vous l'avez déploré tantôt, il y a à peine 12% des femmes qui sont élues. Et justement, de l'autre côté, on s'aperçoit effectivement que ce sont 10% des pauvres sur le continent sont des femmes. Et donc, lorsqu'on fait le lien avec l'éducation et qu'on se rend compte qu'effectivement, sur le continent, plus sur le continent que dans le monde d'ailleurs, les deux tiers des analphabètes sont des femmes, on comprend très vite que l'éducation a un lien essentiel à avoir avec la participation des femmes dans les instances de prise de décision. Et donc, si on veut corriger le mal, il faut absolument le prendre à la base, et bien donc axer la plupart des politiques de développement sur l'aspect genre en matière d'éducation, de formation.
Alors juste pour reprendre votre exemple, lorsque vous étiez ministre de la Justice ou alors lorsque vous avez eu d'autres postes à responsabilité au sein du gouvernement béninois, est-ce que vous étiez plusieurs femmes ? Est-ce que votre gouvernement a été à parité égale par exemple ?
Alors non, on est dans les pays comme le Bénin, très loin de la parité au gouvernement. Je sais que dans le gouvernement auquel j'ai appartenu, d'ailleurs il y en a eu plusieurs, mais dans l'un des gouvernements auxquels j'ai appartenu, il y a eu un effort à un moment donné d'avoir 30% de femmes. Mais hélas, cet espoir qui avait commencé à se réaliser s'est très vite estompé parce que le gouvernement, ce qui a suivi, on était quasiment autour de 20%. C'est pour dire que c'est vrai, nonobstant les exemples reluisants comme ceux du Rwanda, de l'Afrique du Sud, du Mozambique, etc., la question reste très cruciale dans bien des pays africains puisque justement ces avancées dont on parle dans les pays comme le Rwanda, en réalité, ne sont que la partie visible qui masque une réalité encore très très profonde dans nos pays. Et donc, c'est vrai, quand on prend le cas d'un pays comme le Bénin, la parité reste très difficile et en même temps périlleuse.
Et on le voit pendant cette campagne électorale. Je rappelle qu'il y a actuellement des élections présidentielles en cours au Bénin. On se dirige vers le deuxième tour. Combien de candidates femmes, Madame Madougou ?
Alors, il y avait à Tindouk 3 candidates femmes sur environ 33 candidatures. Et après, il y en a une qui s'est désistée en faveur d'un autre candidat. In fine, on avait eu donc 2 candidatures féminines. Malheureusement, aucune d'entre elles n'a pu sortir parmi les 2 premiers et donc aucune d'entre elles n'ira au second tour.
Alors Kamissa Camara, il y a eu donc cette année un calendrier électoral riche sur le continent africain. Les chiffres montrent une faible participation des électrices. Comment est-ce qu'on explique ça ? Elles sont toutes aussi nombreuses que la population masculine. Qu'est-ce qui fait qu'elles votent moins ou est-ce qu'elles s'intéressent moins à la politique ?
Alors, je ne pense pas qu'elles s'intéressent moins à la politique. Je pense qu'elles font face à des défis dans leur vie de tous les jours qui sont complètement différents de ceux que rencontrent les hommes. Par exemple, dans certains pays, pour avoir une carte d'électeur, il faut payer un certain montant. Donc, même si la carte d'électeur, on peut l'obtenir de manière gratuite, vous avez des femmes qui ont à s'occuper de leurs enfants ou qui ont à faire la cuisine à la maison et elles préfèrent justement s'occuper de leurs tâches ménagères plutôt que de parcourir plusieurs kilomètres pour aller dans un bureau de vote et voter.
Jennifer McCleary-Seals, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les femmes à travers le monde, pas uniquement en Afrique, est-ce qu'aujourd'hui, les femmes sont conscientes de ce droit de vote qui est un sésame ?
Je crois que pas dans tout le monde. Non. Il y a beaucoup de contextes où, oui, les femmes sont très conscientes de leurs droits. Il y a des autres où pas encore.
Par exemple, aux États-Unis, on est également en année électorale. Ouais. Hillary Clinton fait la une de tous les grands médias et c'est une candidate sérieuse. Est-ce qu'aux États-Unis, est-ce qu'il faut être dans un pays développé aujourd'hui pour avoir conscience de ce droit de vote ?
Non, pas du tout. Mais je dirais qu'ici, aux États-Unis, oui, les femmes sont conscientes de leur droit de voter. Et dans la dernière élection présidentielle, on a vu que les femmes étaient la plupart de la public qui a voté. Donc on verra que ce sont une force très puissante dans les volets politiques.
Mais est-ce que, comme Rekia Madougou le soulignait dès le départ, est-ce qu'il n'y a pas cette différence dès le bas âge, dès l'éducation qui sépare cet électorat homme-femme?
Oui, et absolument, l'éducation est un des défis plus importants, non, qui affecte aux femmes et leur participation politique.
Camissa Camara, au sein de votre fondation, est-ce qu'il y a des mouvements pour amener les femmes à participer plus, pour sensibiliser les femmes, justement, sur les processus électoraux ?
Tout à fait. Donc, on travaille surtout avec des organisations de femmes qui travaillent avec des femmes de différentes générations. On a, par exemple, des jeunes dames qui vont former leur maman sur la prise de parole en public, sur la nécessité de voter ou sur des stratégies pour négocier dans un milieu qui est en majorité masculin. Donc nous finançons beaucoup d'organisations de la société civile de femmes, mais j'aimerais également souligner que ces femmes avec lesquelles nous travaillons ont besoin d'un réseau qui va les appuyer, qui va faire que d'autres femmes vont renforcer leurs capacités dans la prise de parole encore une fois ou ailleurs. Et je fais partie d'un conseil d'administration d'une organisation ici à Washington qui est un réseau de femmes de la diaspora africaine qui justement a les mêmes missions, qui travaille avec d'autres femmes pour que les femmes se soutiennent les unes les autres et se tirent vers le haut.
Rekia Madougou, je retourne vers vous. Quels sont, selon vous... Est-ce que vous m'entendez, Rekia? Vous êtes toujours avec nous?
Bien sûr, Madame Mousseau, je vous entends.
Quels sont, selon votre parcours, vous avez également été ministre de la Jeunesse et des Femmes, quels sont les obstacles sur la voie de la participation à la vie politique pour les femmes, selon vous?
Alors, évidemment, j'ai été ministre en charge de la microfinance et de l'emploi des jeunes et des femmes. Et à l'époque, ce que j'avais noté d'essentiel, c'était que nous avions lancé des programmes d'autonomisation de la femme. Et on s'était aperçu qu'il y avait un lien étroit, au-delà donc de l'éducation dont je parlais tantôt, il y avait donc, disais-je, un lien étroit entre l'autonomisation de la femme et sa participation à la vie militante, à la vie active. Et qu'on s'est rendu compte que plus on investissait sur la femme, c'est-à-dire, en l'occurrence, plus il y avait à disposition des programmes de microcrédit, de renforcement de capacités pour leur permettre de mener des activités génératrices de revenus, et plus on se rendait compte qu'elles devenaient plus indépendantes, étant plus autonomes, et qu'elles participaient à ricocher aux activités qui permettent effectivement de faire avancer la cité. Et je voudrais donc insister sur cet aspect d'autonomisation. D'ailleurs, autonomisation dans la culture anglo-saxonne, c'est dit empowerment. Et empowerment, c'est power, c'est le pouvoir. Donc si on veut que les femmes aient du pouvoir, il faut régler la question de leur autonomisation. C'est pour ça que souvent, je prône pour la plupart des stratégies au niveau des gouvernements qu'il faut axer un aspect important des politiques publiques de développement au-delà de l'éducation. Eh bien, il faut axer ces politiques publiques davantage sur le renforcement du capital humain et également sur le renforcement spécifique des capacités des femmes.
Effectivement.
D'autant qu'on s'aperçoit que moins de 5% des crédits vont à l'endroit des femmes, ce qui est énorme, ce qui est très peu, très faible.
Effectivement.
Si moins de 5% des crèches vont à l'endroit des femmes, cela veut dire qu'elles ne pourront pas être autonomes et donc, évidemment, elles ne pourront pas participer à la vie
effectivement,
active.
Effectivement, ce qui est primordial. On va prendre quelques réactions Facebook sur le Facebook de VOA Afrique. Richard Mourikebanze à Kigali, « La parité en Afrique est encore très loin ». Faites vos enquêtes, une candidate n'est jamais votée par les femmes, c'est-à-dire que les femmes ne votent pas pour une autre candidate. Elles n'ont pas confiance en elles-mêmes. Camissa Camara, est-ce que c'est le problème aujourd'hui? Est-ce que les femmes n'ont pas confiance d'abord en elles et puis en une autre femme?
Alors je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que les femmes, en tout cas, qui décident de se lancer en politique, ont confiance en elles-mêmes. Mais est-ce qu'elles ont du répondant? Je pense que c'est ça la question. C'est que, en tout cas, surtout en Afrique, on est dans des sociétés où le rôle traditionnel de la femme, ce n'est pas la femme qui va aller à l'avant et puis qui va être un leader. Donc, effectivement, il y a un problème.
On va prendre une autre réaction, celle de Christian Djerabé à Abidjan. Il reste beaucoup à faire pour atteindre la parité. L'éducation reste faible malgré la sensibilisation. L'entrepreneuriat reste non accessible aux femmes. Les États doivent investir plus pour éviter un déséquilibre social. Jennifer McCleary-Seals, est-ce qu'aujourd'hui on tend vraiment vers un déséquilibre social?
Moi, je dirais que oui, et je suis d'accord avec le commentaire qu'on a vu de Facebook, mais il faut dire que l'accès soi-même est une condition requise pour le progrès. C'est un premier pas, mais ce n'est pas suffisant. On peut donner accès, par exemple, au système électoral, mais ce n'est pas suffisant. On doit changer même le contexte socioculturel qui déprime des femmes de leurs droits.
Effectivement, et ce dernier commentaire de Ghislain Christian, base à Ouagadougou, pourquoi penser toujours que ce sont les femmes qui souffrent dans notre société aujourd'hui? Si un homme et une femme sont à la recherche d'un travail et l'un d'eux et les deux ont les mêmes diplômes et les mêmes compétences, celle-ci sera retenue et non l'homme. Rekia Madougou, une dernière réaction à ce commentaire?
Non, il est très clair que lorsque on permet à la femme d'être bien éduquée, bien formée et en même temps de mener des activités génératrices de revenus ou d'avoir un emploi décent, forcément, sa pleine participation aux grandes décisions de sa cité va de soi. D'autant que par ailleurs, pour être dans une position de leadership, il faut faire montre de certaines compétences, il faut faire montre d'une dynamique qui puisse effectivement appeler les autres à suivre une vision et une marche. Et donc, en fait, cela devient un cercle vertueux que les femmes elles-mêmes doivent davantage cultiver autour d'elles, par l'exemple et aussi avec une grande endurance et une grande témérité.
Merci beaucoup, Rekia Madougou, d'avoir été avec nous dans cette première partie. Ce sont sur ces mots que l'on marque une courte pause.
Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne.
Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle.
Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes.
De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales.
Washington Forum.
Washington Forum.
Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par deux autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA.
De retour dans ce Washington Forum, on parle des femmes partout dans le monde avec nos invités Jennifer McCleary-Seals du Centre de recherche sur les femmes et Kamissa Camara, responsable des programmes Afrique de l'Ouest et Centrale à la Fondation nationale pour la démocratie. Dans cette deuxième partie, nous abordons les violences faites aux femmes et ce, quelles que soient les générations. Je vous propose tout de suite d'écouter cette interview de Catherine Samba-Panza, la présidente de Transition, qui répondait aux questions de VOA Afrique récemment.
Il s'agit d'enfants et de femmes vulnérables qui ont subi des abus de la part des troupes qui sont censées les protéger. Bien entendu, même si je n'étais pas une maman, en tant que citoyenne centrafricaine, je ne peux pas accepter que, parce que le contexte est difficile, des enfants soient obligés de se soumettre à de tels actes pour survivre. Mais ma position est la suivante. Il faut poursuivre ces gens de manière individuelle. On ne peut pas jeter l'anathème sur toutes les troupes. Donc pour nous, il est important de suivre la procédure, de voir comment, conformément aux accords que nous avons signés avec ces troupes, ces auteurs d'actes sont bien poursuivis chez eux. Mais malheureusement, nous savons que le suivi sur le terrain dans les pays est difficile.
Et nous a rejoint dans cette émission Madame Olo Makwaya. Vous êtes substitut du procureur à la CPI. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends.
Bonjour, merci de nous rejoindre dans cette émission. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'entendre ce que disait la présidente de Transition à propos des cas d'abus sexuels sur des mineurs et notamment sur plusieurs jeunes filles en Centrafrique. Face à des cas comme ceux-là, est-ce qu'il existe aujourd'hui une justice et si oui, laquelle?
Oui, il existe une justice. Comme vous le savez,
RCA est un membre du statut de Rome, traité fondateur du CPI. Et vu ce qui se passe au RCA, le procureur est concerné avec les rapports qui viennent de là-bas sur les présumés crimes de viol et par des forces internationales. Alors, comme vous le savez, les Nations Unies ont déjà mené des enquêtes ou mènent toujours des enquêtes. Et le procureur suit de près cette évolution et les développements de ces allégations présumées. Mais comme vous le savez aussi, le procureur...
Je ne vous entends plus, Madame Makwaya. Madame Makwaya, alors nous avons perdu malheureusement la connexion avec Madame Makwaya. Juste pour poursuivre sur les commentaires Facebook sur cette deuxième partie de l'émission, justement, nous avons Christian Djerabé à Abidjan qui dit « Certaines violences faites aux femmes ne sont pas prises en charge. Certaines d'entre elles ne dénoncent pas cette violence qu'elles subissent. C'est devenu tabou. » Mesdames, vous êtes toujours avec nous. C'est tabou, on n'en parle pas. Et pourtant, il y a plusieurs rapports, plusieurs enquêtes qui sortent. Jennifer, comment aujourd'hui et quelles sont les avancées qui ont été faites pour pouvoir prendre en charge ces femmes?
Oui, c'est difficile, non? Et le commentaire est absolument correct qu'il y a des barrières, il y a des problèmes qui ne permettent pas aux femmes de dénoncer, de parler des violences qu'elles ont expérimentées. Mais il y a beaucoup de programmes, on voit qu'il y a du progrès pour changer ces normes, les expectations, et les stigmatisations, par exemple. Quand une femme dit que oui, j'étais violée, moi j'étais battue, par exemple, par mon mari, maintenant, et la société commence à changer le...
Il y a une prise de conscience et oui. Il y a une approche différente.
Oui, ça commence.
Alphonse Boaki à Kinshasa... la violence faite aux femmes n'est pas combattue efficacement dans les zones de conflit, comme à l'est de la RDC, où il y a beaucoup d'impunité. Kamissa Camara, l'impunité, est-ce qu'aujourd'hui, ça fait partie des socles démocratiques? Est-ce que ça fait partie du kit qui va avec la démocratie et qu'on essaye de dispenser
Alors l'impunité est un problème que l'on cherche à combattre justement
oui,
pour arriver à une démocratie presque parfaite. Mais j'aimerais peut-être rebondir sur ce commentaire-là en disant qu'il s'agit là de problèmes de société. Donc la société civile en général est la plus à même de régler ces problèmes-là et d'en venir à bout de ces défis-là. J'ai des partenaires un peu partout en Afrique. Certains d'entre eux ont établi des cliniques juridiques qui permettent justement à ces femmes-là de venir se confier à des personnes qu'elles connaissent bien dans leur société. Et ces personnes-là vont ensuite déposer leurs plaintes pour elles dans les différentes cours de justice qui sont là.
Alors, mesdames, j'ai envie de vous poser une question. On voit qu'il y a des structures qui sont en place, qui sont réelles, sur lesquelles les gouvernements, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale, peuvent compter. Mais encore une fois, est-ce que les femmes, est-ce que les jeunes femmes sont conscientes qu'elles ont des droits et qu'elles ont accès à ça?
Ça dépend du contexte.
Par exemple, vous occupez aussi du Moyen-Orient, de l'Amérique latine. Est-ce que la situation sur le continent africain, au Moyen-Orient et en Amérique latine est la même pour les femmes?
Moi, je dirais que c'est très variable. On peut voir dans un même pays, par exemple, une variation très, très grave en ce qui concerne la conscience. Mais ça dépend beaucoup du niveau d'éducation. On voit que les femmes qui n'ont pas beaucoup d'éducation ne sont pas aussi conscientes de leurs droits.
Donc on en revient encore à cet accès à l'éducation. Justement, à propos d'éducation et de jeunes filles scolarisées, le mois prochain, le Nigeria marquera le triste anniversaire du kidnapping par Boko Haram des lycéennes de Chibok. On fait le point avec Salwa Jafari. Alors nous n'avons pas... Ça y est.
Vers 23 heures, des combattants de Boko Haram effectuent un raid sur un internat de la ville de Chibok. 237 lycéennes sont emmenées de force. Certaines s'échappent. Plus de 200 d'entre elles n'y parviennent pas. Un mois plus tard, le 12 mai, Boko Haram diffuse cette vidéo. Son chef Aboubakar Shekau y affirme avoir converti les jeunes filles à l'islam, vouloir les marier de force, les vendre en esclavage. Il exige la libération de prisonniers islamistes en échange de celles des lycéennes. Depuis, aucun signe de vie. Sur cette vidéo, elles avaient entre 12 et 17 ans. Le rap provoque une vague d'indignation au Nigeria. Un groupe baptisé Bring Back Our Girls organise une série de manifestations dans tout le pays. L'enlèvement soulève un émoi dans le monde entier. Les parents des filles disparues attendent toujours des réponses que ni le président Goodluck Jonathan, ni son successeur Muhammadu Buhari ne parviennent à apporter.
Il faut qu'ils nous ramènent nos filles, quelles que soient leurs conditions. Je veux retrouver ma fille.
Janvier 2016, Buhari accorde une audience à plusieurs parents. Il rappelle les récents succès militaires avec plusieurs territoires repris à Boko Haram et donne sa parole qu'il fera tout ce qu'il faut pour que les filles soient secourues.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va continuer à exiger le retour des filles. Nous n'allons pas arrêter d'exiger le retour. Des actions doivent être prises pour récupérer nos filles de Chibok.
Sur cette vidéo, elles avaient entre 12 et 17 ans. Le Nigeria va bientôt marquer les 2 ans depuis l'enlèvement des lycéennes de Chibok. Malgré les revers militaires, le groupe islamiste continue de faire régner la terreur. Selon Amnesty International, Boko Haram a enlevé au moins 2000 femmes et fillettes dans le pays depuis le début de l'année 2014.
Jennifer McClearseals, est-ce qu'aujourd'hui les femmes sont à ce point des cibles faciles et pourquoi dès le plus jeune âge aujourd'hui, quels que soient les groupes, alors là on est à l'extrême, mais on peut aussi, ça peut commencer au quotidien, on parle des viols collectifs dans certaines banlieues, pourquoi aujourd'hui le genre féminin est-il la cible d'autant de violences psychologiques et physiques?
C'est une bonne question. Et on voit que les femmes, elles souffrent de beaucoup de types de violences dans les volets politiques, domestiques, publics. Mais on voit que ça, c'est beaucoup pire dans les contextes de guerre ou de conflit. Ce qu'on a vu dans les vidéos, par exemple, c'est une triste réalité. Et on voit que cette situation, ça va continuer et on voit aussi que ce n'est qu'un seul type de violence que les femmes souffrent pendant les conflits. On a aussi la violence domestique. C'est beaucoup pire après, avant et pendant les temps de guerre. Et je vois que, pour moi, le problème, ça commence avec l'inégalité sociale.
Effectivement. Ouais. Les inégalités sociales, c'est aussi un des thèmes qui est abordé rapidement, en quelques mots pour la fin. Est-ce que c'est l'un des thèmes qui est aussi abordé dans toute cette structure, dans toute la construction d'une démocratie, d'un modèle démocratique ?
Tout à fait. Et je reviens encore sur l'importance de la société civile qui, justement, est proche des populations et qui contribue à changer un peu ses mentalités pour faire comprendre à toute la population que les femmes sont partie intégrante d'un système politique, d'un système social et qu'elles doivent être intégrées et respectées.
Rapidement, qu'est-ce que les femmes qui nous écoutent, les jeunes filles qui nous écoutent peuvent faire pour s'engager dans la vie politique, dans la vie sociale, dans la vie de tous les jours pour pouvoir avoir une voix qui compte ? Mesdames.
Alors, peut-être déjà ne pas considérer le fait qu'elles soient des femmes comme un handicap. Elles sont des femmes à part entière, elles sont des êtres humains avant tout, avant d'être femmes. Je pense que ça, c'est un point important. Et s'éduquer, c'est-à-dire aller à l'école si elles en ont l'opportunité. Mais il y a de très nombreuses femmes qui sont autodidactes et qu'on voit dans les médias de tous les jours et qui n'ont pas forcément des diplômes et qui se sont assumées.
Je suis absolument d'accord. Je dirais que les femmes, moi-même, nous-mêmes, il faut que nous continuions la lutte. Il faut continuer à lutter pour les droits. Mais ce n'est pas seulement les femmes qui doivent lutter. Aussi les hommes doivent être aussi des champions.
Exactement. Ouais. Il faut être complémentaire. Merci, exactement, mesdames, d'avoir accepté cette invitation. C'est merci déjà la fin de cette émission. Merci à nos invités et à vous pour votre fidélité. Un clin d'œil à toute l'équipe technique pour la réalisation de ce numéro, ainsi qu'à la télé Ariane TV à Yaoundé qui diffuse Washington Forum.
If you look around.